soir. Nous allons poursuivre notre cours dans la lumière pascale. Après ce congé de Pâques, ce qui est prévu, c'est cette séance, la parole révélée, son inspiration, sa vérité et les écritures canoniques, une bibliothèque complète. Cependant, aujourd'hui, je vais terminer le point que nous en étions avant le congé de Pâques, lecture juive et chrétienne des Écritures. Et par contre, les deux leçons suivantes prévues, je les contracterai en une séance, au sens où le canon des Écritures, j'en ai déjà un peu parlé, et je reprendrai l'essentiel. Donc, si vous le voulez, nous continuons notre parcours un peu rapide des lectures juives et chrétiennes des Écritures. Si vous avez encore sous les yeux la feuille de route de la fois passée, la feuille numérotée 6, et comme je vais continuer cette leçon, j'ai numéroté la nouvelle feuille, non pas 7, mais 6 bis. Voilà. Donc c'est le prolongement de la leçon précédente. Donc je reprends la feuille de route 6. Vous vous souvenez que concernant l'interprétation juive des Écritures, jusqu'à l'époque de Jésus, on voit que la période, en tout cas post-exilique, le retour d'exil est importante, avec l'importance des synagogues, des prêtres scribes, et vous vous souvenez peut-être que vers l'an 400, précisément, le scribe Esdras est celui qui préside à la rédaction définitive du Pentateuque, par exemple. Et c'est une époque où se termine la rédaction de pas mal de livres bibliques. À l'époque de Jésus, il y avait trois courants. Les Sadducéens donc, s'intéressaient au seul Pentateuque, la Torah, et encore le texte écrit. Après le désastre de la chute de Jérusalem en 70, liés qu'ils étaient au culte du Temple, le Temple ayant été détruit, ils disparaîtront de la circulation. Par contre, le judaïsme va survivre à travers les pharisiens. Je mentionne au passage quand même les Esséniens, vous vous souvenez, cette communauté sur les bords de la mer Morte qui lisait l'écriture et la commentait, d'après ce qu'on a retrouvé dans la bibliothèque, mais le faisait de manière coupée du reste du judaïsme. Critiques ils étaient à l'égard du sacerdoce et du culte de Jérusalem. Les pharisiens vont être ceux par lesquels la fréquentation juive des Écritures va continuer assidûment. Eux, vous en souvenez, sont attentifs à la tradition orale. Ils se ressaisissent après le désastre de 70 dans l'assemblée de Jamnia. Et on reverra. Et ils vont déployer, contribuer à déployer ces rabbins pharisiens et leurs disciples des traditions de commentaires. De l'écriture, les Targum en araméen, et il va y avoir deux écoles importantes à l'époque de Jésus, l'époque de Shammai, plus rigoriste et néanmoins majoritaire, et l'époque de Hillel qui était plus souple et plus ouvert et qui, vous en souvenez, est l'ancêtre de Gamaliel qui était le maître de Paul. Et cet Hillel va proposer une certaine formalisation de la pratique de tradition orale d'interprétation de l'écriture selon une série de règles qu'on a évoquées. Concernant la perspective de fond, ces commentaires interprétatifs vont pouvoir aller tantôt dans le sens de la halakha, c'est-à-dire qui vise ce qu'il y a à faire, halakha veut dire marcher, se comporter, comment se comporter, donc l'attention à toutes les normes concrètes, les observances, et la Haggadah qui est plus réflexive pour l'instruction édifiante. Donc ce qu'on appelle les midrash, les commentaires un peu libres de l'écriture, vont être tantôt dans cette voie davantage de la pratique, tantôt de la réflexion. Et enfin le midrash pécher réactualise l'écriture prophétiquement et a des accents lui plus tournés vers le terme et plus mystiques. On verra que ces tendances fondamentales qu'on avait déjà évoquées dans le tableau concernant les quatre sens de l'écriture réapparaissent et s'affirment périodiquement. Après la destruction du temple, il y a donc l'assemblée pharisienne de Jamnia. C'est un moment important puisque les juifs fixe à ce moment-là, sans employer le terme comme tel, mais la liste normative de leurs écritures, à la fin du 1er siècle après le Christ, et dans la foulée, au tournant des 1er et 2e siècles, apparaît, commence à se rédiger la Mishnah, c'est-à-dire qui met par écrit ce qui avait été jusque-là des éléments de la Torah rabbinique orale, et en les organisant selon divers aspects de la vie ordinaire, familiale, sociale, culturelle, mais toujours dans leur dimension religieuse, bien sûr. Deux écoles notables au début du IIe siècle, celle du rabbi Akiba et d'un autre rabbi, et ce sont des hommes très engagés, ils sont tous les deux morts dans la révolte juive menée par Bar Kokhba. La révolte, le désastre de l'an 70, et puis vers l'an 135, de nouveau un temps critique pour Israël, une révolte réprimée. Mais cette entreprise de la Mishnah, consistant à mettre par écrit un corpus de loi jusque-là orale, du judaïsme rabbinique, cela était novateur. Puis la Mishnah va elle-même à son tour être commentée dans autre type d'écrit qu'on appelle la Gemara, tant en Terre Sainte qu'en Babylonie. Vous vous souvenez que les Juifs étaient restés nombreux en Babylonie et continuent à lire l'écriture, à réfléchir, à la commenter. Et Mishnah et Gemara sont recueillis enfin dans ce qu'on appelle les grands Talmuds, précisément de Jérusalem, en araméen occidental, et beaucoup plus important encore, le Talmud de Babylone, et un petit peu postérieur, au 4e, 5e siècle, en araméen oriental. Et le Talmud, à son tour, est encore expliqué et complété. Ça, c'est la mise par écrit, si vous voulez, de ces commentaires oraux, commentaires qui sont même revus, amplifiés, affinés. Parallèlement, les Midrash, qui consistent à commenter, non pas la loi telle que se transmet oralement, mais la Torah écrite, les Midrash continuent, et les Targum qui prennent leur naissance dans la pratique synagogale, puisque le Targum, c'était au moment où on avait lu la lecture en hébreu, le commentaire targumique expliqué en traduisant en araméen, mais aussi en paraphrasant le texte. Il y avait une grande autorité. Après la rédaction du Talmud, donc vous voyez qu'on avance dans le texte, on reparcourt à grandes enjambées l'époque de Jésus, les premiers siècles. Le Talmud, donc dans sa double version, est rédigé au 4e et 5e siècle. Après sa rédaction, il va connaître une grande diffusion dans tous les centres studieux de la diaspora, là où les Juifs sont répartis, dans tout le bassin méditerranéen, et aussi dans la foulée de l'islam, qui le connaît. L'islam apparaît au 7e siècle, évidemment, en 622, l'Égypte avec Mohammed. Par ailleurs, les Arabes vont se montrer très avisés dans l'élaboration de grammaires, de dictionnaires, de commentaires, à ce moment-là. Et donc le Talmud va ainsi se répandre, mais connaître, à ce moment-là, à force de faire des commentaires, de vouloir affiner, on tombe dans des excès un peu de pointillisme, de casuistique, comme on dit. D'où, comme souvent dans l'histoire de la pensée, là où un excès se manifeste, il y a un mouvement de balancier, réaction. Réaction, c'est la dernière ligne de la page 6, réaction contre cette amplification talmudique. C'est la réaction des Karaïtes. Kara, c'est le verbe qui veut dire lire, et qui insiste sur le retour à l'écriture seule. Un peu comme on parlera à propos de Luther du sola scriptura, le fait qu'il veut revenir à l'écriture seule, indépendamment des commentaires de la tradition qui se sont ajoutés. Eh bien, il y a une forme de réaction de ce type-là de la part des Karaïtes, qui veulent revenir donc à l'écriture dans sa nudité première, en deçà de toutes ces couches de commentaires et de commentaires, et en même temps, en retournant à l'écriture, retourner à son exigence aussi, en termes d'observance, d'où va de pair un radicalisme d'observance. Je prends maintenant la page, si vous voulez, 6b, que j'ai écrit aujourd'hui. Les Karaïtes ont rapidement, mais ça ne sera pas très très long, enfin, un bon écho, un succès. Mais comme ils veulent revenir à la nudité de l'écriture de manière parfois un petit peu qui empêche quand même toute amplification qui résonnerait davantage à partir de l'écriture, de nouveau, réaction aux Karaïtes, c'est le développement d'une philosophie religieuse. Donc l'islam a pris naissance au 7e siècle. Il s'est répandu en Afrique du Nord. De là, il va passer dans le sud de l'Espagne. Il va être arrêté à Poitiers, les musulmans, mais il va longtemps imprégner le sud de l'Espagne jusqu'à ce que les musulmans et les juifs soient chassés d'Espagne dans la Reconquista, au terme de la Reconquista, comme on dit, à la fin du 15e siècle. Donc, nous allons prêter une attention à ces penseurs juifs, mais qui en même temps étaient en contact avec le monde musulman et notamment la langue arabe. C'est ainsi qu'au 9e, 10e siècle, Saadia, qui est un Iranien, donc dans une région là-bas qui a déjà elle aussi été touchée à ce moment-là par l'extension de l'islam, va se montrer en partie opposé au karaïsme, au sens où, comme les Karaïtes veulent revenir à la lettre seule, lui dit soit respect de la lettre, mais il veut en même temps faire valoir ce que la foi, en réfléchissant, peut en tirer. Il veut particulièrement articuler la foi et la connaissance qui peut rendre compte du caractère raisonnable de la foi. Il édite une Bible, donc il est juif, mais il édite une Bible en arabe, dans un contexte où l'arabe prend de l'importance. La Bible de Saadia reste la grande référence, première traduction biblique en langue arabe comme telle. Au Xe, XIe siècle, la philosophie religieuse, donc cette manière de penser la religion, bien sûr, telle qu'elle se donne à partir des écrits, mais en essayant de la réfléchir en lien avec la philosophie religieuse se développe précisément en Afrique du Nord, puis en Espagne, avec ceci des noms que vous avez peut-être déjà entendus, ou si vous ne les avez pas entendus, que vous les entendiez pour en avoir, comme je dirais, une connaissance passive, les avoir entendus au moins une fois, et lorsque vous les réentendez, tiens, ça vous dit quelque chose, vous savez à peu près où aller chercher. À la différence d'une connaissance active, où on vous donne une page blanche et on vous dit, donnez-moi quelques grands noms, 12e, 13e siècle, ça. On peut difficilement le demander, sauf si quelqu'un a une mémoire exceptionnelle. Donc, ceci dit, au Xe, XIe siècle, la philosophie religieuse se développe dans cette région avec Avicenne, qui est un médecin philosophe. Toutes ces grandes pointures intellectuelles de l'époque, à l'époque, le savoir est encore très unifié. Aujourd'hui, il y a une telle amplitude dans les recherches, etc., qu'il n'y a plus d'esprit encyclopédique qui peut passer. Mais à l'époque, il y avait encore de ce type d'esprit encyclopédique, c'est un médecin philosophe, Avicenne. Je vous donne les noms tels qu'on les connaît d'habitude dans leur transcription, dans nos langues occidentales. Si vous voulez l'original dans la langue arabe, vous allez voir dans le syllabus du père Radermakers. Mais je les donne tels qu'on les connaît d'habitude dans les écrits cultivés qu'on peut fréquenter. Avicenne, qui connaît la philosophie d'Aristote, ce philosophe grec, avant le Christ, et aussi le néoplatonisme, donc des disciples de Platon, qui sont développés après. Et puis, il y a non seulement une réflexion philosophique, mais aussi, à l'époque, des maîtres qui réfléchissent, mais d'une manière plus portée sur le spirituel. Au XIIe, XIIIe siècle, le nom d'Averroès, qui de nouveau est un médecin, juriste, philosophe, mathématicien aussi, ce sont des esprits un peu impressionnants et fascinants, et Maïmonide, qui, lui, ce grand penseur, est le meneur de la pensée juive, de langue arabe, dans les pays musulmans, ce qu'on appelle la branche d'Afrique et d'Espagne, la branche séfarade. Lorsqu'on dit l'extension du judaïsme, il connaît à l'époque une extension de deux côtés. Du côté de l'Afrique du Nord et de l'Espagne, c'est la branche séfarade, et une figure de proue en est précisément Maïmonide. Nous sommes dans le domaine de langue arabe, puisqu'à l'époque, le sud de l'Espagne est fortement arabisé. Il offre précisément, Maïmonide, en arabe, une synthèse entre le judaïsme, puisque même si la langue est l'arabe, c'est un juif, une synthèse entre judaïsme et la pensée d'Aristote. Traduit en latin, il va marquer Thomas d'Aquin, qui lui est le grand théologien du XIIIe siècle, et puis plus tard Maître Eckhart, qui est aussi un grand théologien et mystique au XIIIe, XIVe siècle. Je dirais le fait qu'ils aient été traduits en latin a donné accès à leur pensée, à des gens comme Thomas d'Aquin, dont on sait que lui aussi va tenter une synthèse entre la théologie, très nourrie de l'écriture, et aussi la philosophie. Un autre grand nom à côté de Maïmonide, c'est pour ça que je l'ai mis en grâce aussi, c'est celui de Rachi de Troyes, qui est un juif, qui est établi à Troyes, non pas la Troyes de l'Antiquité, mais Troyes en Champagne, et qui, au XIIe, XIe, XIIe siècle, commente toute la Bible et le Talmud mot à mot. Vous voyez, hein, la Bible c'est déjà pas mal, mais le Talmud de Babylone, il avait 6000 pages, donc il s'attache à un commentaire très fourni, donc attentif à la lettre du texte, mais tout en déployant le sens. Rachi était un esprit très, très ouvert, à la fois précis par rapport au texte, mais ne voulant pas en rester simplement à des considérations philologiques ou de compréhension immédiate du texte, mais déployer le sens. Et il va, lui, être une figure de proue de la branche juive européenne, comprenant l'Italie, la France, l'Europe centrale, et qui elle se rattache plus directement à, elle n'est pas de langue arabe, elle se rattache plus directement à Israël, et c'est la branche ashkénaze. Et lui marquera aussi Saint Thomas d'Aquin. Donc le grand penseur là de cette époque, dans le judaïsme, aussi bien dans la région plus arabophone, si l'on peut dire, de l'Afrique du Nord et de l'Espagne, les séfarades, que dans la région de nos pays et l'Europe centrale. À côté de la philosophie religieuse, il y a l'exégèse biblique, qui, elle, son premier intérêt n'est pas de faire le lien entre la Bible et la philosophie, ou les systèmes philosophiques, Aristote, Platon, mais vraiment de faire l'exégèse du texte. Deux grands courants d'interprétation. L'un est plus philologique, attentif à la lettre, au XIe, XIIe siècle. Il était déjà présent chez Saadia, puisque Saadia réagissait en partie aux Karaïtes. Comme eux, il était attentif à la lettre, mais à leur différence, il voulait aller plus loin que la lettre. Mais donc, il avait déjà quand même un point d'attention philologique. Et ce point est stimulé à l'époque par des grammaires arabes et aussi de bons philologues juifs. D'ailleurs, c'est en ces siècles, 11e, 12e, que les racines hébraïques sont fixées, la grammaire hébraïque commence à se formaliser, à s'expliciter. Un autre courant, non plus le courant philologique, mais celui qui s'intéresse, vous vous souvenez, on a dit, dans les quatre sens de l'écriture, il y a le sens littéral, et ça, il scrute la lettre de près, mais il y a les trois autres sens spirituels, et bien un autre courant déploie les divers sens de l'écriture. C'est précisément au XIIIe siècle que la doctrine juive du Pardesh, vous vous souvenez, ces consonnes du mot paradis, qui était un moyen mnémotechnique pour les juifs de retenir des dimensions, des quatre sens qu'on a identifiés. Alors, je dirais, l'attention à ces dimensions était présente, mais sa formalisation dans la doctrine et l'utilisation du terme de Pardesh pour la synthétiser remonte au XIIIe siècle. Je vous renvoie à ce qu'on avait vu, page 5, et le tableau de l'annexe 17. Et il s'intéresse au sens spirituel de l'écriture jusqu'à vouloir creuser le sens le plus intérieur. Cela s'affirme dans le mouvement dit du Zohar, qui interprète la Torah dans sa dimension aussi la plus spirituelle et la plus mystique. Il faut dire un mot du hassidisme et de la kabbale. C'est des termes que vous entendez parfois. Qu'y a-t-il derrière hassid, en hébreu, veut dire le pieux. Et le terme de kabbale renvoie à une dimension d'accueil, de réception. Dès le 8e siècle, déjà, il y avait un zèle de piété qui s'affirmait dans le judaïsme, mais qui va se préciser davantage en Allemagne au 12e, 13e siècle, avec notamment un ouvrage intitulé « Le livre des pieux ». Donc une dimension de piété dans la manière d'accueillir l'écriture, de l'interpréter, de la voir nourrir la prière précisément. Rencontrant la philosophie, ce piétisme, qui est parfois, nourri d'une dimension charismatique, puisqu'on est pieux, en se mettant en prière, en écoutant ce que dit l'esprit, ce charismatisme, mais alors, en lien avec une dimension de la philosophie, va engendrer la kabbale. La kabbale, qui va produire un livre, non plus intitulé « Livre des pieux », mais « Livre lumineux », et puis, dans la foulée, le Zohar, qui cherche à approfondir le sens de l'écriture dans un sens mystique, mais parfois un peu ésotérique. Quand on dit des signes kabbalistiques, ça veut dire qu'il y a une interprétation des symboles qui est réservée un petit peu à un petit nombre d'initiés. Donc, dans cette ligne, développement de la kabbale et du courant mystique et un peu ésotérique du Zohar. Cela se développe avant l'expulsion des Juifs espagnols qui a lieu à la fin du 15e siècle, comme je le rappelle, hein, 1492, c'est l'époque de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, mais c'est la même époque où les rois très catholiques mettent à la portée les Juifs et les Arabes, l'Espagne, qui représentaient quand même une finesse et culturelle et artisanale tout à fait appréciable. Enfin, pas porter trop de jugement sur l'histoire, mais il faut voir les conséquences que ça a eu aussi, même si on pouvait comprendre l'entreprise de la Reconquista, du point de vue culturel. Hein. Ceux qui ont été dans le sud de l'Espagne, qui ont vu l'Alhambra de Grenade ou la grande mosquée de Cordoue, voient que c'est quand même le reflet d'une civilisation à certains côtés brillante. Et ça a fort appauvri l'Espagne à ce moment-là. Je ferme la parenthèse. Donc, chassé d'Espagne, ces courants mystiques vont se développer, rebondir ailleurs encore, des 13e au 18e siècle, entre autres, avec une école de Safed en Galilée, où Ari, ce qui est le surnom donné à un penseur et interprète juif, et qui signifie littéralement le lion, qui qualifie l'ampleur de la vigueur d'existence et de pensée qui était la sienne, Ari intervient au XVIe siècle et son œuvre, intitulée Le Devoir, s'efforce d'allier contemplation et méditation. Quant au mouvement hassidique, donc, qui continue, qui relaie la dimension pieuse dont on a parlé au début, le mouvement hassidique, il, comme tel, ce qu'on appelle le mouvement hassidique, naît en Pologne vers le XVIIe siècle. Et il offre au peuple, alors en difficulté, au peuple persécuté, une forme d'attrait pour la piété, la prière, qui puisse soutenir le peuple, lui offrir comme une petite voix pour les pauvres et les humbles. Et en ce sens-là, le mouvement hassidique en Pologne, au moment où il se rend proche des besoins spirituels aussi du petit peuple, eh bien, simplifie et popularise la kabbale. Puisqu'il ne s'agit pas à ce moment-là d'entrer dans des explications trop ésotériques et compliquées. Mais le désir de la kabbale de nourrir une dimension mystique est ainsi ressaisi dans un nouveau contexte de soucis pieux pour rejoindre à ce moment-là le peuple persécuté. L'interprétation moderne des Écritures. Vous voyez qu'on avance à très grandes enjambées. Hein, si vous voulez plus de détails, allez voir le syllabus du père Jean-Robert, très précis, très fourni. On se dirige vers l'époque moderne. Nous sommes toujours donc dans les mouvements d'interprétation juive de l'écriture. Au XVIIIe siècle a lieu le phénomène de ce qu'on a appelé en allemand « Aufklärung », qui veut dire éclairage littéralement, illumination. C'est le siècle de la philosophie des Lumières. De quelles lumières s'agit-il ? Les lumières que peut apporter la raison, qui est fort prisée, mise en avance. Voltaire, par exemple, se situe dans cette ligne. Et ce contexte de philosophie des Lumières fait que dans le judaïsme, un mouvement, la Haskalah, qui signifie illumination, va se développer. Et un certain Moïse Mendelssohn, qui est le petit-fils, ou le grand-père, pardon, le grand-père, je sais toujours dans quel sens ça va, de Félix Mendelssohn, le musicien, ça va. Toujours est-il que Moïse Mendelssohn, parent du musicien, veut vérifier rationnellement le judaïsme et l'émanciper, c'est-à-dire rendre compte du judaïsme, mais aussi en des termes très articulés, rationnellement, conformément à la philosophie des Lumières. Et pour bien marquer qu'il veut s'inscrire dans le contexte précisément de l'Aufklärung, il ose traduire la Bible en allemand. Luther avait déjà traduit la Bible en allemand, mais Luther était un chrétien. Hein, ici, l'audace, c'est qu'un juif traduise la Bible en allemand. Alors, prudemment, pour ne pas effaroucher trop les juifs orthodoxes, ils commencent par la traduire en allemand en utilisant des caractères hébraïques, donc de l'allemand, mais en le transcrivant en lettres hébraïques. Et puis après, elle est traduite, livrée en allemand. C'est notamment de cette traduction de Mendelssohn que vient l'expression « l'éternel » pour qualifier Dieu. Quand vous entendez parler de Dieu en termes de l'éternel, ça veut dire que dans les chants charismatiques d'origine anglaise ou germanique, ça remonte à la traduction de Mendelssohn. C'est la manière dont les Juifs, Ashkenaz ou l'Europe centrale, appellent Dieu conformément à cette manière de traduire son nom par Moïse Mendelssohn. À côté de cela, un certain Abraham, vous voyez que les prénoms de ces gens sont bien juifs, hein, Maurice, Abraham, Abraham Geiger, et en même temps leur nom est une consonance allemande. Abraham Geiger soumet l'autorité biblique et talmudique à un examen historico-critique, c'est-à-dire celui, le désir de lumière rationnelle se porte sur la confrontation avec que dit, que peut dire l'histoire, comment peut-elle faire passer au crible le texte, et il ne se prive pas d'ainsi interroger l'autorité biblique et talmudique. Cela prélude à une science du judaïsme, on a pu dire, qu'un certain Zuns va mettre en valeur, et qui va se porter sur l'examen précis de l'histoire et de la littérature juive. Comme toujours, il y a là une tendance donc, qui veut inculturer le judaïsme en essayant d'en rendre compte rationnellement, et les juifs orthodoxes répondent que, plus profond que la rationalité, il y a quand même l'élan de la foi, l'attachement proprement religieux à Dieu, et donc, comme je le disais, ils réagissent, comme il arrive souvent, ils proposent une sorte de contre-réforme qui veut, elle, unir, certes, l'acculturation dans l'Europe de son temps, mais aussi le respect des traditions en termes de croyances et de pratiques. Il ne s'agit pas que le judaïsme, en voulant rendre compte de lui-même rationnellement, s'affadisse de ses racines les plus authentiques. Un autre mouvement important qui joue dans la manière d'aborder l'écriture et de la comprendre, c'est le mouvement du retour sur la terre, comprenons la terre promise. Le mouvement sioniste commence à s'affirmer hein, à la fin du XIXe siècle, et suite à cette tendance, on peut signaler les noms de Abraham Kook, premier grand rabbin de Terre Sainte, qui lui est attaché à une dimension de spiritualité intérieure, le philosophe d'origine juive, Martin Buber, adepte, lui, d'un sionisme culturel et spirituel à la fois. Donc marqué l'empreinte de la présence juive en Terre Sainte et dans le monde, son empreinte culturelle et spirituelle. Et enfin le nom de Franz Rosenzweig, dont l'ouvrage « L'étoile de la rédemption », un chef-d'œuvre réfléchi, le surcroît de sens qu'offre la révélation à la pensée humaine. Bon, c'est des formules, je résume très fort les choses, mais c'est pour que vous ayez entendu parler de quelques grands noms et que vous mesuriez quand même la vigueur de la pensée qui s'est déployée dans le monde juif, tous azimuts, au fil des siècles. Venons-en à l'interprétation chrétienne des Écritures. J'ai noté les références des pages du Père Adam Laterse. Commençons par Jésus et le Nouveau Testament. Jésus, comment se situe-t-il lui-même par rapport à l'Écriture? Bon, passant de l'interprétation juive des Écritures à l'interprétation chrétienne, avec Jésus, ben, nous avons celui qui va nous donner notre nom, c'est le Christ, chrétien. Mais Jésus est d'abord un juif. Donc c'est Jésus qui fait le passage entre l'Ancien et le Nouveau Testament et l'interprétation juive des Écritures qui va continuer à se développer par ailleurs, mais aussi en dialogue avec l'interprétation chrétienne des Écritures. Jésus et le Nouveau Testament. Jésus, comme des rabbis et prophètes, il n'est pas que cela, mais il apparaît aux yeux de ses contemporains et à raison au moins comme un rabbi, capable d'enseigner, d'instruire les foules, et un prophète. Grand prophète s'est levé parmi nous, eh bien, il s'insère, comme les rabbis et les prophètes, dans une tradition plutôt orale. Il n'est pas de ceux qui commencent à prendre la plume et à écrire. C'est une des preuves de l'humilité et de la confiance de Jésus-Christ de laisser le soin à ses disciples de consigner par écrit la mémoire de ce qu'il aurait pu faire ou dire. Jésus est préoccupé à ce moment-là, il est dans le moment présent, de vivre ses relations avec les hommes. Et donc il s'insère dans une tradition orale, il n'y fait pas. Comme les pharisiens attentifs à la tradition orale, ils pratiquent des midrashim, des commentaires, de divers types. On les a rappelés dans la direction de la Haggadah explicative, de la Halakha qui promeut le comportement, du midrash pécher qui vise le sens mystique. Eh bien, Jésus connaît déjà toutes ces pentes des midrashs, des pratiques, et met en œuvre des règles formulées par Hillel. Par exemple, vu comment Jésus peut manier des arguments a fortiori, Saint Paul aussi, hein, si votre Père Céleste habille déjà ainsi l'Élysée des champs, combien à plus forte raison, hein, comment Jésus manie des arguments de type Gezerah Shavah, comme on dit, c'est-à-dire un lien entre deux textes à la faveur d'un mot commun. Vous vous souvenez peut-être, j'avais donné l'exemple en Saint-Marc, « Honore ton père et ta mère » et la parole, le reproche du prophète, « Ce peuple m'honore, non pas du cœur, mais simplement des lèvres. » Et c'est ce mot commun qui lui permet de passer. Donc ces procédés midrashiques, Jésus les connaît et les met en œuvre, mais il le fait d'une autorité libre. Et à la fois avec les procédés des scribes, mais note l'écriture, il enseigne avec autorité et non pas comme leurs scribes. Il y a quelque chose de plus dans la manière qu'a Jésus de ressaisir l'écriture. Pourquoi ? Parce que en sa personne, il l'accomplit. Et évidemment, à partir de son identité, sa mission propre, il peut mieux que nul autre habiter les écritures, les interpréter. Sa typologie, la démarche qu'il pratique, la démarche typologique, c'est une démarche biblique, pratiquée aussi par les rabbins, qui saisit la nouveauté de l'histoire dans la continuation de l'action divine finalisée. C'est-à-dire, à un moment où un événement nouveau surgit, on reconnaît dans la mémoire de l'histoire comment il y avait des types qui le préfiguraient. Comment, voilà, ce qui a été annoncé dans la logique de l'intention divine s'accomplit. Et sa typologie révèle qu'en sa personne précisément s'accomplissent l'histoire et l'écriture d'Israël. C'est du même mouvement que Jésus accomplit l'espérance de son peuple qui a traversé les siècles et les promesses qui, dans l'écriture, consignées dans l'écriture, sous-tendaient le mouvement de cette histoire. Lorsque Jésus, en Saint-Jean, sur la croix, dit « tout est accompli de ce qu'il avait à faire », voilà, et c'est après avoir aussi cité l'écriture. C'est du même mouvement qu'il accomplit ce que l'écriture entrevoyait de son don total et la manière dont il lui permet dans son acte libre de se réaliser. Et l'écriture et l'histoire d'Israël pointaient déjà une dimension universelle. Par exemple, le prophète Isaïe a déjà cette attention au fait que le salut de Dieu, passant par le peuple élu, Israël, est destiné ultimement à toutes les nations. Les rois de Saba et de Séba viendront des quatre coins apportant leurs offrandes jusqu'à Jérusalem, etc. Donc il y a une dimension universelle. Et dès lors que Jésus réalise l'écriture et va pouvoir être connu comme le sauveur non seulement de son peuple, mais le sauveur de tous les hommes, je suis venu dans le monde, dit Jésus, non pas pour tout le monde, pas seulement dans son peuple, eh bien, ces prémices d'ouverture universelle de l'écriture ne sont pas rendues caduques. Hein? Que Jésus accomplisse d'une nouveauté radicale ce qui était attendu de lui, ne veut pas dire que précisément cette attente est rendue caduque, mais au contraire exaucée. Jésus dit « Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Sa présence dépasse ce que pouvaient espérer ou réaliser les Écritures, mais en même temps, elle les exauce pleinement. Deuxième point, le Nouveau Testament et Jésus. Le premier paragraphe, c'était de voir comment Jésus lui-même, tel que nous voyons dans l'Évangile, discutait avec les pharisiens, etc., mettait en œuvre un certain nombre de procédés rabbiniques et interprétait les Écritures à la lumière de sa personne, les accomplissant. Mais Jésus n'a lui-même rien écrit. Par contre, les disciples, on a vu un peu quelques jalons de la Genèse du Nouveau Testament, vont progressivement, à partir de traditions orales, et commencer à fixer par écrit ce qui vont devenir les Évangiles. Et on arrive à un texte écrit. Il faut toujours se rappeler que le texte écrit vient précisément d'une transmission orale première qui était plus vivement communicante. Vous voyez, le texte écrit risque toujours un peu de figer la parole orale. Lorsqu'il est proclamé et bien proclamé dans l'assemblée liturgique, il retrouve comme une vivacité. Il ne faut pas l'oublier. Et par exemple, la manière dont Sœur Jeanne d'Arc traduit, c'est une des traductrices assez fidèle au texte grec, des évangiles entre autres, notamment pour l'évangile de Marc, elle est attentive à rendre le caractère, je dirais, de tradition orale qu'il pouvait y avoir derrière le texte, dans la manière même d'écriture, elle est attentive à ces dimensions orales sous-jacentes. Sur base de traditions orales araméennes ou hébraïques au départ, puisque Jésus parlait l'araméen, il citait l'écriture pour ses disciples en hébreu, eh bien le texte lui, du Nouveau Testament est rédigé en grec, vous le savez, tous les évangiles, et il cite la Bible plus souvent, déjà d'après la traduction grecque de la Bible hébraïque. On a vu que c'était la Septante qui était déjà réalisée au 2e, 3e siècle avant le Christ. Donc, la mise par écrit de ce que Jésus a fait et dit, en passant de l'araméen et de l'hébreu au grec, est déjà une forme d'inculturation du message, au sens où il va pouvoir désormais être accessible aussi au monde non juif. Les textes du Nouveau Testament reprennent et expliquent l'écriture à partir de Jésus. Tout comme Jésus lui-même avait commencé, souvenez-vous d'Emmaüs, parcourant Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua dans l'écriture ce qui le concernait. Ne fallait-il pas, selon l'écriture, que le Christ souffrit ? Donc Jésus a commenté l'écriture. Mais alors, les évangélistes eux-mêmes, parfois, interviennent eux-mêmes pour rappeler « ainsi s'accomplissait l'Écriture ». Ce n'est plus Jésus qui le dit, c'est l'évangéliste qui mesure cela et qui explique l'Écriture à partir de Jésus, auquel ils le comprennent maintenant, l'Ancien Testament pardon, rend témoignage. J'ai mis l'expression entre guillemets parce qu'elle vient de Saint Jean. Jean dit « j'ai plusieurs qui témoignent pour moi hein ». Le Père témoigne pour moi, Jean-Baptiste a témoigné pour moi, Moïse témoigne, les Écritures témoignent pour moi. Les Écritures sont un témoin que Jésus revendique. Et les auteurs du Nouveau Testament, recueillant ce caractère de témoignage rendu à Jésus, eh bien, expliquent l'Écriture à partir de lui. La typologie que j'évoquais à l'instant culmine ici, jusque dans la reprise des titres et désignations que Vésu reçoit. C'est-à-dire lorsque Vésu est présenté comme le Messie, celui qui a reçu l'onction du Seigneur, c'est dans la ligne de ce qu'on disait déjà, de loin du Seigneur comme successeur davidique. Déjà. Lorsque Jésus est honoré comme fils de David, on reprend un titre qui pouvait s'appliquer au roi dans la succession davidique et qui est ressaisi au sens fort. Donc la démarche typologique montre que ces titres, déjà les images du berger chez Ézéchiel, Jérémie, Jésus les ressaisit en disant « Je suis le bon pasteur, sois le pasteur de ma brebis ». Et cette manière qu'a Jésus de remplir tous les titres de l'ancien, importants de l'Ancien Testament, jusqu'au fils de l'homme qu'entrevoit Daniel, etc., eh bien, justement, dans le mouvement de la typologie, on voit que ces titres étaient là, préfigurant la manière dont Jésus pourrait pleinement les remplir et les porter. C'est lui le fils de David par excellence, c'est lui le bon pasteur par excellence, c'est lui le roi d'Israël par excellence, etc. Donc, la typologie culmine jusque dans la reprise des titres et désignations qu'il reçoit, les citations, les allusions à l'Ancien Testament, les réminiscences réinterprètent les textes à la lumière du message et de la vie de Jésus, c'est-à-dire en lumière pascale. Autrement dit, c'est quand on a vécu l'événement pascal, qu'avec l'esprit on entre dans son intelligence, que dans la lumière pascale, on peut, et Jésus a commencé à le faire avec les disciples d'Emmaüs, se souvenir de textes d'Ancien Testament et mesurer combien il se prêtait à préparer la venue du Seigneur. Voilà. Lorsque Pierre, dans les Actes des Apôtres, invoque « C'est lui, la pierre rejetée des bâtisseurs qui est devenue la pierre d'angle », il va chercher l'expression du psaume 118. Jésus l'avait déjà fait dans la parabole des vignerons ici, mais on voit bien que c'est à la lumière du fait qu'il comprend maintenant, après Pâques, ce que voulait dire Jésus avant Pâques en disant « la pierre rejetée est devenue la pierre d'angle ». La pierre d'angle, désormais, c'est le Christ ressuscité, et donc c'est à la lumière de Pascal qu'il peut relire et comprendre des passages de l'Ancien Testament qui concernaient Jésus. La démarche typologique s'éclaire pleinement. L'attention à la réalité historique de Jésus commande l'interprétation qui articule la promesse et l'accomplissement. C'est-à-dire que c'est pas simplement à la lumière d'un message ou d'explication de Jésus, c'est à la lumière vraiment de ce qu'il a vécu historiquement, de l'événement, de la personne de Jésus. Le Midrash chrétien, j'ai mis deux références. Par exemple, la première, c'est l'allusion que Paul fait, je l'ai déjà cité dans la première aux Corinthiens, au rocher qui abreuvait le peuple au désert. Et Paul, de manière extrêmement lapidaire, dit « ce rocher était le Christ ». Il est en train de faire, de dire « cette eau jaillissant du rocher nous promettait l'eau qui jaillit du Christ ». C'est ça, faire un midrash chrétien de l'Écriture, se fait en référence singulière à la personne vivante du Fils de Dieu incarné. Ce qui veut dire que, même si les Juifs pratiquaient déjà le Midrash chrétien confère à ces procédés une consistance et une perspective tout à fait nouvelle, puisque la réalisation dans le Seigneur Jésus est unique. Voilà pour ce qui est de Jésus, comment il a interprété l'Écriture de son vivant, comment le Nouveau Testament ressaisit alors l'Écriture à la lumière de cette connaissance récemment acquise et progressante de Jésus. Passons à l'Église des deux premiers siècles. L'enseignement et la liturgie des premières communautés contribuent à rédiger, à délimiter canoniquement le Nouveau Testament. Qu'est-ce que je veux dire ? Dans l'enseignement des apôtres, d'abord oral, et puis dans la liturgie des premières communautés, il y avait déjà des fragments de discours de Jésus, ou bien dans la liturgie, quelques passages plus hymniques qui ont pu être intégrés au moment de la mise par écrit. Par exemple, si saint Paul a des passages hymniques, pour certains passages, on peut penser qu'ils étaient déjà pratiqués dans la liturgie chrétienne, et qu'écrivant une lettre, à tel moment, il a ressaisi telle formule hymnique. « Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, que nous chantons, etc. » Il y a un passage un peu hymnique, dans les pastorales, que Paul reprend ainsi. C'est ça qui a derrière l'expression « contribue à rédiger et puis à délimiter canoniquement le Nouveau Testament ». C'est-à-dire, au moment où on s'est demandé quels écrits garder, on y reviendra, un des critères, ça a été la fécondité de leur usage dans la liturgie. Si les lectures de telles lettres nourrissent la liturgie et semblent la nourrir de manière juste par rapport à l'ensemble des mystères de la foi, c'est un des critères pour accepter ces lettres pauliniennes plus tard dans le canon, la liste. C'est parfait. À partir de critères abstraits, on a tenu compte aussi, je dirais, de la manière dont l'esprit travaille dans la liturgie chrétienne. Si ça paraissait juste, approprié et nourrissant dans la liturgie, ça pouvait être un critère disant, vraiment, cela mérite d'être retenu comme écriture canonique. Les textes du Nouveau Testament, profitant aussi de procédés rhétoriques et philosophiques hellénistiques, vont intégrer liturgiquement, nourrir la foi et la réflexion théologique chrétienne. Procédés rhétoriques et philosophiques hellénistiques, j'ai mis entre parenthèses la référence de 1 Corinthiens 15, j'en dis un mot, 30 secondes, c'est le grand chapitre de Paul consacré à la résurrection des morts. Il veut marquer le lien entre la résurrection du Christ et l'espérance de la résurrection des morts. On ne peut pas croire que Christ est ressuscité sans croire dans la foulée que ceux qui appartiennent au Christ vont aussi ressusciter. C'est ça le point. Alors, il commence par s'interroger sur le fait de la résurrection des morts. Et là, il raisonne de manière précisément assez syllogistique, philosophique. Ça l'aide d'être un raisonnement. Si les morts ne ressuscitent pas, alors Christ n'est pas non plus ressuscité, etc. Tandis que lorsqu'il s'interroge sur le comment de la résurrection, là ce n'est plus le pôle d'un pôle cultivé par la culture hellénistique qui s'affirme, mais c'est le pôle midrashique et biblique. Il procède tout à fait autrement. Il prend des comparaisons pour dire entre notre corps terrestre et le corps glorieux, il n'y aura aucune proportion de la même manière que... Et là, il se réfère au récit de la Genèse, autres sont le corps des poissons, des oiseaux, des corps célestes, des corps terrestres, etc. C'est un chapitre exemplaire de l'articulation entre une mentalité plus sémitique, juive, ce que Paul était, et aussi toute son acculturation dans le milieu hellénistique. Et dans l'Église des premiers siècles, eh bien, les choses se développent comme ça. L'Église et l'Ancien Testament. L'idée d'un corpus autonome des écritures chrétiennes n'a pas été immédiate. Les chrétiens pouvaient penser d'abord que les écrits qu'ils pratiquaient, le canon juif des écritures à la fin du 1er siècle, va, du point de vue des juifs, se délimiter. Alors qu'en serait-il des écrits chrétiens ? Est-ce que ce sera un appendice à la Bible juive ou quoi ? Et petit à petit, l'idée s'est faite qu'il y avait un corpus d'écrits d'une nature liée à l'Ancien Testament, mais aussi nouvelle, qui allait devenir le Nouveau Testament, un corpus à part entière. Cette idée d'un corpus autonome des Écritures progresse chez les pères apostoliques, donc les pères qui ont encore connu au moins la génération apostolique, comprenons entre jusqu'à la fin du 1er siècle, hein, puisque Jean, vieillissant, meurt à la fin du 1er siècle. Et ils s'affranchissent progressivement de la tutelle des Écritures juives. Ça ne veut pas dire se couper des écritures juives, mais se voir comme plus que simplement ce qui serait un appendice christique des écritures juives. Avec Irénée, cette idée d'un corpus autonome des écritures est acquise. Pour les 10 minutes qui nous restent, je vous donne le plan de ce qu'on va. On a traité ce point-ci, Jésus et le Nouveau Testament. On est dans ce point-là, l'Église des deux premiers siècles. Je viens de dire un mot de l'enseignement et de la liturgie. Nous passons à ce point-ci, l'Église et l'Ancien Testament. Donc un premier aspect, c'est que l'idée d'un corpus du Nouveau Testament, qui serait bien distinct du corpus de l'Ancien, se fait jour progressivement. Mais alors, la question du rapport précisément entre le christianisme et l'Ancien Testament n'a pas été si simple. Parce qu'au milieu du IIe siècle, un certain Marcion, un hérétique, va être condamné comme hérétique, dans un ouvrage qu'il appelle les Antithèses, donc vous aurez des notes écrites de tout cela, hein, dans ces Antithèses, va opposer, lui, plutôt que d'essayer d'articuler, il va opposer le Nouveau Testament à l'Ancien, c'est-à-dire il va caricaturer les choses, présent, et il en reste quelque chose malheureusement aujourd'hui, il oppose au Dieu jaloux et cruel des Juifs le Dieu d'amour de Jésus. Or déjà dans l'Ancien Testament, il est quand même question de miséricorde, hein, et Jésus est certes un Dieu représente un Dieu d'amour, mais l'amour jaloux de Dieu, au sens de son amour pour son peuple, demeure. Donc il oppose indûment l'Ancien et le Nouveau Testament, à tel point qu'il n'entend ne rien retenir de l'Ancien Testament, et même le Nouveau Testament, il l'expurge largement, il ne retient que Paul et Luc en partie. Hein? Notamment Paul, parce que, dans la manière dont il le comprend, Paul se montre sévère par rapport aux juifs un peu rabbiques et par rapport à la loi, entre autres. Mais il comprend Paul là de manière un peu courte. En fait, il prétend s'appuyer là-dessus. Dès lors, il va susciter des réactions et on va avoir, par exemple, un contre-Marcion de Tertullien, donc un théologien chrétien qui est mort à Carthage en 220. Et Saint-Irénée de Lyon, une grande figure dont on parlera, qui est mort vers l'an 200, va vivement défendre l'orthodoxie d'un juste rapport entre l'Ancien Testament et le Nouveau, plutôt que de les opposer. Ces auteurs entendent rendre leur valeur à l'Ancien Testament, car c'est bien le même Dieu qui s'est révélé dans les deux Testaments. Il ne s'agit pas de parler d'un côté d'un Dieu purement et simplement jaloux, opposé à un Dieu d'amour du Nouveau Testament. C'est le même amour de Dieu qui fait son chemin, mais selon une pédagogie progressive. Dans les débuts, les judéo-chrétiens présents dans l'Église, ce n'était pas si facile pour eux, ils venaient du judaïsme, ils se convertissaient, enfin, ils reconnaissaient le Christ comme le Messie attendu, en ce sens, ils se convertissaient au christianisme, c'est le cas de Paul, et dans un premier temps, c'est légitime, ils maintiennent avec l'Ancien Testament des pratiques et observances prescrites par la Torah. La circoncision, le respect du sabbat, des fêtes, des règles alimentaires. Et Paul va devoir se battre pour faire discerner là-dedans ce qu'est l'essentiel et l'accessoire. Et donc, selon qu'on est judéo-chrétien, c'est-à-dire un chrétien venu du judaïsme, ou bien pagano-chrétien, venu d'un autre horizon, c'est sûr qu'on va se rapporter à l'Ancien Testament d'une manière avec des accents différents. Dans une perspective apologétique, après les pères apostoliques donc de cette génération, il va y avoir au tournant du siècle et au deuxième siècle les pères apologistes. Une apologie, ça veut dire une défense vigoureuse. Et précisément, ils ont à défendre l'équilibre de la foi dans son rapport à l'Écriture contre des excès tels que ceux de Marcion. Et aussi, ils discutent avec les philosophes païens, les philosophes grecs, pour justement défendre la foi, ils entrent en dialogue. Il faut voir qu'à la même époque, aussi au IIe siècle, se développent des courants de la gnose. Les courants gnostiques, c'est des courants qui accordent une grande importance au salut par la connaissance révélée par Dieu, mais à tel point d'accorder un primat, simplement, à des connaissances révélées dans le salut. La gnose est un terme assez général qui couvre beaucoup de mouvements dans ce sens. Mais parmi les gnostiques, il y en a un certain, Valentin, qui rejette l'Ancien Testament parce qu'il le considère comme la révélation d'un Dieu inférieur. Et Irénée de Lyon, tout comme il avait résisté à Marcion, va devoir se battre également contre les gnostiques. Il a un ouvrage, 5 livres de réfutation et destruction de la gnose menteuse. Il réfute en se rapportant à la tradition de l'Église et il élabore à l'occasion toute hérésie a comme contrepartie positive qu'elle force à réfléchir en les défendant et à affiner ses propres positions. Et donc dans ce combat, il élabore une réflexion intéressante sur les rapports entre l'Ancien et le Nouveau Testament. À ce moment-là, nous sommes vers la fin du IIe siècle, ce qui deviendra le canon des 27 livres du Nouveau Testament, on est pratiquement d'accord sur l'essentiel. Une liste des livres pratiqués dans la liturgie à Rome à la fin du IIe siècle, ce qu'on appelle le canon de Muratori, comporte pratiquement tous les livres qu'on a actuellement dans notre Nouveau Testament. On hésite encore pour les lettres de Pierre, la troisième de Jean ou Hébreu, mais pour tout le reste, on est déjà d'accord. Ce qui veut dire que le canon des Écritures se profile et la confession de foi, ça va être les deux colonnes sur lesquelles repose l'enseignement de l'Église. Voilà pour un mot. Vous voyez que cette manière de trouver un juste rapport entre l'Ancien et le Nouveau Testament dans la foi chrétienne, dans la pratique liturgique, n'a pas été évident au départ. Toujours est-il qu'aujourd'hui, dans nos assemblées dominicales, on lit encore un texte du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, et des textes du Nouveau Testament. Et que précisément, ils sont choisis, souvent, le premier texte et l'Évangile, en fonction de l'évidence, d'une manière dont le premier prépare le second. Puis, ici, dans le copié du père Adermakers, vous avez une note sur les écrits apocryphes, mais on en a déjà parlé. Vous vous souvenez, les apocryphes juifs et chrétiens de l'Ancien et du Nouveau Testament. Je vous en avais donné dans la leçon 4 aussi la liste en annexe. J'en viens à un troisième point, l'exégèse patristique en Orient et en Occident. Je vais juste l'amorcer. La patristique, ça désigne les pères de l'Église, c'est-à-dire les grands théologiens chrétiens des premiers siècles, soit du côté des pères orientaux, qui écrivent bien sûr davantage en grec, soit du côté des pères occidentaux, qui écrivent davantage en latin, parmi les pères de l'Église. Prenons la bonne page. Voilà. En Orient, donc du côté des pères grecs, au cours des deux premiers siècles, je vais juste exposer ce point, on a deux écoles importantes, l'école d'Alexandrie et l'école d'Antioche. Alexandrie, c'est, vous vous en souvenez, en Égypte, dans le delta du Nil. C'est là que la Bible juive a déjà été traduite en grec, pour des juifs en contexte hellénistique. D'Alexandrie était originaire un certain Philon d'Alexandrie, dont j'ai déjà dit un mot, qui s'efforce de rendre compte des écrits bibliques et du peuple juif, dans des catégories déjà philosophiques, et qui déjà s'intéresse à une dimension de l'interprétation dit allégorique. Et Clément d'Alexandrie, et puis un père de l'Église comme Origène, au 2e, 3e siècle, vont développer, cette fois-ci, il ne s'agit plus d'un juif, Philon, mais de père de l'Église chrétien, mais qui, héritant de cette perspective d'interprétation allégorique de Philon, vont développer précisément l'appréhension, la manière de saisir le sens dans la lettre, mais plus profond, le sens allégorique de l'Écriture. Tandis que, je viendrai, mais j'esquisse la différence avec l'école d'Antioche, comprenons Antioche de Syrie, est, elle, attentive prioritairement à la lettre de l'Écriture. Donc l'école d'Alexandrie va ouvrir déjà un déploiement du sens allégorique en un sens encore très large, qui au début couvre pratiquement ce qu'on a distingué comme les trois sens spirituels, avant de se spécialiser, tandis que l'école d'Antioche, elle, veut d'abord bien fonder le sens premier qu'on a vu, le sens littéral, le sens de la lettre. Donc c'est intéressant de voir que dans l'histoire de l'exégèse, en général, juive ou chrétienne, il y a des figures et il y a des courants qui illustrent tantôt l'accent porté, tantôt sur telle dimension des sens des Écritures, on va en parler, tantôt sur telle autre. Si on peut formaliser les sens de l'écriture. Vous vous souvenez, le sens littéral, le sens allégorique, on y reviendra, le sens anthropologique, qui préside au comportement, le sens anagogique, tourné vers l'espérance chrétienne. Si on a pu les formaliser, c'est pas à partir de considérations abstraites, c'est à partir d'une pratique et déjà d'interprétation de l'écriture, en voyant qu'un tel était plus attentif au sens littéral et qu'un autre était au contraire transporté de joie en creusant le sens mystique. Voilà pour esquisser. On essaiera de continuer la fois prochaine. J'ai encore amené, pour ceux qui le voudraient encore, donc.